Kiosque Magazine.
Bon matin, bonjour à tous. Nous sommes le 6 mai et c'est la première émission du mois de mai. Et aujourd'hui, il y a du monde en studio. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, nous sommes... Je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous aurez plaisir en notre compagnie. Au micro, Safia Larabi, en compagnie de Dominique Millet.
Bonjour.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Dominique?
Eh bien, des chamans, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéressait. Demain, tous chamans. Et ensuite, stop aux idées reçues. Un petit texte sur les allergies saisonnières, parce que cette saison. Voilà.
Exactement. Et nous avons donc deux nouvelles recrues et la première, c'est Daniel Rioux. Bonjour.
Bonjour.
De quoi vas-tu nous parler, Daniel?
Je vous parle de décoration et de couleurs pour le printemps et de grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants. Deux sujets.
D'accord. Anne-Marie Mélina Simard.
Bonjour, Safia.
Bonjour.
Aujourd'hui, je vous livre un texte sur Boucar Diouf. En fait, c'est Boucar Diouf qui nous livre quelques conseils dans son rôle paternel. C'est tiré du magazine Enfants, avril 2015.
D'accord, bienvenue parmi nous. Merci. Et enfin, Christine Boucard.
Bonjour Safia, bonjour à tous. Mon nom donc est Christine Boucard et je vais vous parler pour une première. Je vais aborder le cancer sous un autre angle. C'est un article d'André Fauteux dans la maison du 21e siècle. Et ça s'appelle « Le cancer n'est pas le fruit du hasard ».
Quant à moi, aujourd'hui, je vous parle des prophéties autoréalisatrices. Saviez-vous qu'on pouvait avoir une pensée magique? C'est dans un instant dans le kiosque magazine de Canal M.
Alors, ce matin, je vous parle de décoration et de cinq couleurs pour le printemps. Et je dédie ce texte à Claudine, une de mes amies, qui a déjà vu et qui a perdu la vue suite à des complications de santé, vous savez. Puis, et elle aime décorer. Ah. Alors, je vous parle des cinq couleurs pour le printemps. Et c'est un texte de Sarah Barrière-Brunet qui est paru dans la presse samedi le 25 avril. Alors, des couleurs neutres, ben, il y a des teintes pastel, des tons vitaminés. Le printemps se part de multiples atours, tours d'horizon. Le bleu. Dans la continuité de 2014, le bleu est encore présent, quoique plus adouci de blanc que l'an dernier, tranche Sophie Bergeron de chez Benjamin Moore. En peinture, la teinte sera plus douce et calme. En déco, pour Nicole Mail de Crate & Barrel, le bleu s'avère la couleur du moment. Le bleu revient en force. Indigo, marin, bleu fumé, aqua, turquoise. C'est la vraie couleur de la saison et de l'année. Nous pensons qu'elle sera populaire pour un long moment, c'est ce qu'elle dit. C'est une couleur héritage. Ça nous évoque le ciel, la mer. Le bleu aura toujours une place dans notre cœur. Le jaune, maintenant. Si Madeleine de Villers, de Zone Maison, n'avait qu'une seule couleur à choisir pour le printemps, ce serait le jaune. Cette couleur, dans toutes ses teintes, évoque la chaleur de l'été, qu'on aime bien avoir, oui, et donne un éclat instantané à un environnement. Il s'agit également d'une coloration qui se combine facilement avec le turquoise, le bleu, le gris et bien d'autres couleurs. Pour l'intégrer, elle suggère d'utiliser des coussins, des tapis et des jetés comme moyen très facile, d'ailleurs, de rafraîchir un décor. Et cette couleur ensoleillée arrive à point pour la chaleur de l'été qu'on attend. Le gris, troisième couleur, est considéré comme le nouveau neutre. Parmi les neutres, le gris domine, de pâle à foncé. Les blancs et blancs cassés sont toujours présents aussi. Ainsi, le gris peut servir de canevas, si vous avez le goût, pour glisser des couleurs plus franches dans son décor. Il se marie bien avec les pastels, comme le rose, et fait ressortir les teintes plus vives, comme le jaune ou le vert. Et même avec les neutres, selon Vanessa Holden de chez West Elm, ça ajoute, elle dit, nous aimons les blancs agencés aussi, hein, avec le beige, le gris et l'ivoire, qui rappellent les teintes du désert. Ça donne à rêver. Hein.
On voyage ce matin.
On voyage ce matin parmi les couleurs. Et pour le printemps, ben, les verres se font végétaux, avec les plantes qui prennent de plus en plus de place en déco, comme les cactus et les variétés tropicales, pas étonnant que le vert s'immisce dans les teintes de 2015. Les verts, ben, ils sont naturels, sereins et les couleurs sont parfaites pour créer des agencements recherchés et stylisés, précise Mme Sophie Bergeron de chez Benjamin Moore. Nicole Mail de Crate & Barrel, elle ajoute qu'elle dit que plusieurs prédisent le retour du fameux vert forêt. Vous connaissez ce vert?
Ouais.
Pour l'automne, mais elle dit que ça fait tellement, c'est drôle à dire, 20e siècle. On est dans le 21e maintenant. Elle dit que nous ne sommes pas convaincus pour l'instant que ce vert va faire fureur. Et cinquièmement, la dernière couleur, le rose. Le rose se présente autant dans des teintes pastels que vitaminées. C'est une teinte qui permet de s'amuser avec la couleur. Le corail, tout comme le turquoise et le jaune pâle, évoque la fraîcheur du printemps et se décline dans différentes teintes plus douces et subtiles. Le rose framboise, ça donne goût de manger, hein? Mm-hmm. Se démarque également, affirme Madeleine de Villers, de Zone Maison. Et pour Sophie Bergeron, les teintes rosées se présentent dans les tons plus raffinés et de manière plus complexe. Leurs sous-teintes de gris en font des couleurs recherchées pour les aires ouvertes. Maintenant, je vous parle de grands-parents. C'est un texte que j'ai pris dans le réseau FADOC et qui a été suggéré dans la presse du samedi 25 avril dans la section Maison. Le réseau FADOC, en passant, c'est la Fédération de l'âge d'or du Québec, pour plus de précision. Hein? FADOC, on entend, mais on veut savoir. Alors, près de 80 % des grands-parents québécois s'impliquent dans la vie de leurs petits-enfants. La grande majorité des grands-parents québécois, soit 78 % ont au moins une chose en commun. Ils sont impliqués dans la vie de leurs petits-enfants. Mais pour ceux-ci, cette implication peut se traduire de plusieurs façons. C'est ce que révèle d'ailleurs un récent sondage CROP réalisé pour le compte d'Universitas, spécialiste en épargne études, qui a voulu en savoir davantage sur la question. Disposant souvent de plus de temps libre et de moyens financiers à la retraite, les grands-parents s'investissent davantage dans leur vie familiale. Fait intéressant, parmi ceux qui se disent beaucoup impliqués, les grands-mères semblent être davantage que les grands-pères dans une proportion de 45 % contre 29 %. De manière générale, le gardiennage, l'accompagnement lors d'activités scolaires et lors des vacances annuelles sont les formes les plus courantes d'implication dans la vie des petits-enfants. Il y a aussi l'implication des grands-parents dans l'éducation de leurs petits-enfants et ça se résume surtout à la participation et à l'accompagnement aux diverses activités scolaires dans une proportion de 42 % tout de suite suivi soutien financier pour les études. Parmi ceux qui investissent pour les études, leur contribution moyenne annuelle pour l'ensemble des petits-enfants se situe aux alentours de 2 000 $. Il semble d'ailleurs que plus les grands-parents gagnent en sagesse, plus leur implication financière est significative. Écoutez bien. En effet, 8 % des répondants âgés de 55 à 64 ans ont affirmé offrir un soutien financier pour les études, alors que ce pourcentage augmente à 36 % chez les 65 ans et plus. Quelques autres données lors de ce sondage que je vais vous informer dès maintenant. Alors, la majorité des grands-parents québécois, 80 % offrent des cadeaux en argent à leurs petits-enfants Noël. En plus, on apprend que les grands-mères offrent leur soutien davantage en gardiennage que les grands-pères, alors que les grands-pères sont plus enclins à s'impliquer dans l'éducation personnelle, soit la discipline, le savoir-vivre, les bons comportements des petits. Alors, et troisièmement, dans l'éducation, les grands-pères optent davantage pour un soutien financier, alors que les grands-mères, elles, accompagnent davantage leurs petits-enfants lors d'activités scolaires. Et pour terminer, quand vient le temps de faire plaisir à leurs petits-enfants, les grands-parents vont surtout leur acheter des petits cadeaux, préparer leurs mets préférés et participer avec eux à une activité qu'ils aiment.
Alors, bon matin, mon nom est Anne-Marie. Alors, pour faire suite à ma collègue Danielle, je vous offre un texte de Boucard Diouf sur les études en expérimentation paternelle. Un titre qui est tiré du magazine Enfants Québec, 2015, avril 2015. Alors, papa d'Anthony, 7 ans, et de Joëlie, 3 ans, Boucard Diouf nous offre et nous livre les premières conclusions de ses études en expérimentation paternelle en 6 points. Biologiste et humoriste et animateur de télévision, Boucard Diouf est actuellement en tournée au Québec pour présenter son spectacle Pour une raison X ou Y, dans lequel il traite, entre autres, de l'art d'élever un bébé humain. Alors, en 6 points. Vivre sans dormir, c'est possible. J'ai développé une stratégie de zombification pour survivre aux carences du sommeil. Je suis debout, mais mon cerveau ne fonctionne pas. Ce sont mes réflexes qui me font avancer. Mes paupières sont vitrifiées. Je suis comme un fantôme Boucard. Mais ça marche bien en général. Mais faites attention, ça peut devenir dangereux à la longue. Si vous êtes prêt à craquer, je vous recommande la technique de la chambre individuelle avec vue sur la belle-mère. Invitez votre belle-mère à dormir chez vous pendant quelques mois. Une troisième personne qui vient en renfort, ça fait du bien. Un bébé, ça s'élève en gang et il faut bien s'entourer, n'est-ce pas? En deux, vivre sans sexe, c'est possible. À sa naissance, le bébé devient le compétiteur de papa. C'est un ménage à trois qui s'instaure. Quand la femme allaite, elle sécrète la prolactine, une hormone incompatible avec la testostérone. C'est l'arme du bébé contre la libido. Le mari est écarté pour un bout de temps. Il faut être patient. La maman n'a pas à se forcer pour faire plaisir à son conjoint. La sexualité change et il faut s'adapter. Et quand les enfants grandissent, la seule solution, c'est de profiter d'un épisode de Toupie et Binou à la télé. En trois, supporter les pleurs du bébé, c'est possible. J'ai trouvé ça très difficile. J'ai inventé des chansons, j'ai bercé mes enfants pendant des heures, j'aurais fait n'importe quoi pour les apaiser. Mais souvent, c'est impossible de décoder ce qui ne va pas, de savoir qu'ils ont faim, s'ils sont fatigués, s'ils sont malades. C'est très angoissant. Quand le bébé vient au monde, seulement 10% de son cerveau est en activité. Il ne peut communiquer. Sa seule stratégie pour survivre, ce sont ses hurlements. Ses pleurs sont connectés au cœur de ses parents pour les pousser à réagir, à essayer de trouver ce qui ne va pas. Et ça marche. Ils sont forcés de s'occuper de lui. En quatre, garder une vie sociale, c'est possible. Quand on devient papa, on ne peut plus décider de nos sorties spontanément. Rejoindre les gars au 5 à 7 quand ça nous tente. Après qu'on a refusé 3-4 invitations de suite, notre chum appelle moi et c'est inévitable. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire la fête. Pour organiser un party, suivez l'exemple des canards. Mettez tous les enfants au milieu et dansez autour d'eux. Et finalement, non, pas finalement, en point 5, survivre à l'accouchement de sa blonde, c'est possible. C'est très récent, la présence des hommes dans les salles d'accouchement. Au Sénégal, ça ne se peut tout simplement pas. Et même chose au Québec, ce n'est pas encore tout à fait naturel. On se sent inutile. On voit notre blonde souffrir et la seule chose qu'on peut faire, c'est lui donner la main. Mais attention, ça peut être dangereux. Il faut rester alerte. Elle va peut-être la mordre parce qu'elle nous en veut de l'avoir mise dans cette situation. Et finalement, en 6, être un papa heureux, c'est possible. Pour savoir si on sera un bon père, il faut attendre d'être grand-père. Si tes propres enfants t'amènent leurs enfants, ça veut dire que tu as probablement fait un bon travail. Pour le papa, le bébé reste longtemps un colocataire. Au début, on ne sait pas trop comment considérer cet individu en phase limace qui vit avec nous. Mais quand il commence à babiller, à faire de vrais sourires, tout change. C'est le début de la communication avec un autre être intelligent et c'est le début de la paternité. Quand ton enfant reconnaît ton existence, qu'il sait que tu fais partie de sa gang et qu'il te regarde comme tel, alors tu te sens vraiment papa.
Une question d'argent pour montrer qu'on mène le monde, un problème présent dans mon monde. Problème présent sur une réserve indienne.
racines, même dans chaque ville, même dans tienne. Yo, tu mises sur toi-même et tu perds contre toi-même. Mais tu mens aux autres comme tu mens à toi-même. Tu perds toute ta famille, tu gâches même tes enfants. S'en vaut-tu la peine pour une question d'argent? C'est pas aussi simple qu'une game de bingo. Ça finit les casinos. Tu mises tout, tu mises trop. Une cause de suicide, comme d'autres problèmes d'ailleurs. Ils misent tout ce qu'ils ont, prêts à vendre leur honneur. L'argent fait-il le bonheur? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure et ceux qui foncent pour un monde meilleur. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Concept de société, concept de business. Conseil de chum, longe ta mise, fuck la somme. Avec la vie que tu mènes, t'as la confiance de personne. Et c'est dégueulasse, perdre la face pour un signe de pièce. Ta vie serait sur ma pile ou face. Qui voit qui t'inigue, junior, qui cheap, qui n'a rien. Qui voit oui, j'y mets des journaux. Qui gagne, qui n'a, oui, j'y m'a, oui, à gauche, ta piche, coach, qui n'a, oui, j'y. Wagi tini ge junior ki chi pagi na ge an ki wa wishi mi tizunan ki ga ki na wish ki ma ka we ago ka pishko chkin ki ga ki na wish ki na. On propose du rêve aux communautés pauvres. C'est là que je m'impose et que les questions se posent. Quoi faire, qui blâmer, les hauts placés ou juste la société qui mise l'argent mal placé? C'est pathétique, rendu pathologique, pas très logique de croire que la problématique est juste pour un soir. Y'a de l'espoir, faut croire, y'en a qui s'en sort. Puis avoue que j'ai pas tort. Le jeu se résume à un château de cartes. Le 2 de pique fait surface et le roi perd sa place. T'es le valet de ton reflet. Les jeux sont faits et c'est juste un fait. Essaye de comprendre pourquoi t'es pris dedans. C'est un conjoint des enfants. Comprends que pour eux c'est stressant, même blessant. Joueur compulsif peut détruire une famille. La confiance de ses proches pour vider le fond de sa poche. Moi je trouve ça poche, mais j'ai pas de préjugés, encore moins de reproches. À toi de trouver ce qui cloche. Y'a de l'aide qu'on t'offre et t'es pas le seul ni le premier à vivre cette catastrophe. Wagi tini ge junior ki chi pagi na ge an ki wa wishi mi tizunan ki ga ki na wish ki ma ka we ago ka pish ko chkin ki ga ki na wish ki na. Wagi tini ge junior ki chi pagi na ge an ki wa wishi mi tizunan ki ga ki na wish ki ma ka we ago ka pish ko chkin ki ga ki na wish ki na. C'est impensable de prendre le jeu au sérieux quand c'est plus un loisir, c'est que le jeu te rend nerveux. Plus t'en as, plus t'en veux, mais t'es perdant. Les deux pieds en plein dedans. Quand tu gagnes l'argent, c'est que t'as perdu le double. Rien de plus qu'une illusion, man, c'est une roue qui tourne. On t'offre de faux espoirs et c'est bon à savoir. C'est le joueur qui a le problème, faut pas blâmer le système. Mais le secret, c'est de l'admettre à soi-même. Être capable d'y faire face et de gérer ses propres dilemmes. Mais le secret, c'est de l'admettre à soi-même. Être capable d'y faire face et de gérer ses propres dilemmes. Une question d'argent pour montrer qu'on mène le monde. Problème présent dans mon monde. Problème présent sur une réserve indienne. Puis c'est le même dans chaque ville, même dans tienne.
Eh bien, on vient d'entendre Samian qui chantait Gambling. Voilà. Demain touche Chaman. C'est un texte de Flavia Mazelin-Salvi et c'est dans Psychologie Magazine du mars 2015. Nous étions tous les six réunis autour du feu. Depuis le départ, le matin à 5 heures, personne ne parlait. Et pourtant, nous nous sentions tous reliés les uns aux autres, à la terre et au ciel. C'était la sixième marche de vision que j'organisais pour un groupe et, au retour, chaque participant m'a dit avoir reçu les réponses aux questions qu'il se posait. Louise, 41 ans, professeure des écoles, pratique la randonnée depuis 20 ans. C'est après avoir lu le livre de Brown Morgan, « La marche de vision », qu'elle a ressenti le besoin de donner à ses sorties une dimension plus spirituelle. C'est une version aménagée de la quête de vision amérindienne qui se fait pendant 4 jours sans boire ni manger, explique-t-elle. Mais l'esprit reste le même, se relier à la nature pour recevoir ses messages. Comme Louise, de plus en plus d'hommes et de femmes s'initient au chamanisme. Née à la préhistoire, celle-ci est présente sur tout le globe. Le mot « chaman », d'origine sibérienne, a été adopté par les anthropologues pour désigner les guérisseurs, les sorciers, les magiciens et les voyants. Leur point commun, en état de transe, grâce à des plantes hallucinogènes, à des battements de tambour ou à la privation d'eau et de nourriture, ils gagnent le monde des esprits pour conseiller et guérir les membres de leur communauté. Ce sont leurs héritiers que de plus en plus d'Occidentaux vont consulter en Amérique du Sud ou du Nord ou en Asie, au point que l'on évoque un tourisme chamanique florissant, notamment en Amazonie où la prise d'ayahuasca, c'est une liane des esprits, attire un nombre croissant d'amateurs de tripes intenses. Il serait pourtant erroné de réduire l'attrait pour le chamanisme à la seule consommation d'expériences extrêmes ou à une spiritualité folklorique. Même si sous le label chaman prospèrent d'habiles manipulateurs ou de vrais illuminés. Le succès depuis 3 ou 4 ans de cette forme de spiritualité s'inscrit dans le sillage du développement personnel et de l'écologie. Il traduit le besoin de réalisation de soi et d'un engagement militant pour changer le monde. Arnaud Rioux, formateur et coach comportementaliste, parle d'ailleurs de chamanisme 2.0. Il ne s'agit plus tant d'aller consulter que d'être initié à la pratique pour pouvoir en utiliser les outils. Pour le psychiatre Olivier Chambon, tous les enfants sont des petits chamans. Mais au fil du temps, la société les décourage alors qu'il faudrait développer ce potentiel. Nous sentons confusément que nous vivons coupés de ce qui est bon pour nous, amputés de la nature et de nos ressources profondes. L'intérêt pour le chamanisme exprime cela. Renouer avec la nature, sortir du mental, retrouver des sensations. S'il attire autant, c'est parce qu'il offre la possibilité d'une rupture radicale avec un mode de vie urbain aussi harassant que stressant. C'est ce qui a conduit Frédéric, 32 ans, à effectuer il y a 2 ans un stage au Canada. Feu sacré, hutte de sudation, voyage chamanique. « J'ai expérimenté les grands rituels », raconte-t-elle. Mais ce qui m'a le plus bouleversée, c'est de rentrer en contact avec l'esprit de la forêt. J'entendais, je sentais, je voyais comme jamais, comme si tout était relié en 3D. Je peux dire que j'ai entendu parler les arbres. Toutes les expériences ne sont pas aussi mystiques. Pour certains, marcher pieds nus, faire du feu, écouter le silence, regarder des jeux de lumière dans les feuillages sont des moments magiques, tout simples, mais qui provoquent un élargissement de conscience. François, 44 ans, patron d'une PME, a fait l'an dernier un stage d'initiation pour se libérer d'un stress de plus en plus important. Il témoigne. Le premier soir, après une longue marche silencieuse, nous nous sommes retrouvés devant un feu pour partager notre expérience. Et le lendemain, nous avons effectué un voyage au son du tambour. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti que mon animal de pouvoir était une abeille. Je percevais son calme, son humilité. Elle me disait de l'imiter au jour le jour. Quelque chose de profond s'est débloqué en moi. J'en ai pleuré. Face à ma vulnérabilité, j'ai retrouvé mon pouvoir personnel, un pouvoir tranquille. Le pouvoir personnel, que l'on pourrait appeler force intérieure, est une notion clé du chamanisme. Il fonde notre identité et est en lien avec les autres pouvoirs, celui de la terre et tout ce qui la peuple. Il est aussi synonyme d'équilibre. Se relier aux autres et au monde en vivant et en partageant des valeurs et un idéal, c'est aussi l'aspiration portée par cette pratique. Les stagiaires sont dans une quête de connaissance et de réalisation de soi, constate Arnaud Rioux. Mais pas seulement, ils sentent surtout les jeunes de 20-25 ans que l'humanité est dans une phase critique. Et ils désirent prendre une place différente dans le monde, faire vivre des valeurs autres. Le chamanisme répond à cette double inclination. Plus de gens constatent au quotidien que le consumérisme et l'individualisme nous rendent malheureux et ravagent la planète. C'est pourquoi ils cherchent d'autres voies pour donner du sens à leur vie et vivre mieux tout simplement, en allant vers l'essentiel à l'intérieur et à l'extérieur. La créativité de chacun va devenir le facteur de transformation du monde. Pour cela, il faut retrouver ce pouvoir manquant. Et cela s'appelle l'engagement. Dans la voie du retour à soi, à sa puissance créative qui est le don de chacun. C'est l'enjeu crucial des années à venir. Chamanisme utopique? Peut-être. Humaniste, c'est certain.
Connaissez-vous Dustin Garis? Cet Américain a travaillé dans de grandes multinationales comme Coca-Cola, où il a porté le titre de Chief Troublemaker, provocateur en chef, et a mené des campagnes marketing novatrices. Dans sa mission personnelle, c'est de lutter contre la monotonie et de faire en sorte que sa vie, la vôtre et la mienne aussi, soit riche et heureuse. Dans sa vidéo TEDx, le gars demande « Il y a combien de jours au cours de ces derniers mois dont vous vous souvenez ?» La plupart des gens peuvent se remémorer 3 journées par mois. Mais que se passe-t-il des 27 ou 28 autres jours que ceux-ci sont-ils tombés dans l'oubli ? Mettez à l'échelle de l'année, d'une décennie, d'une vie, et c'est l'amnésie totale. Alors que faire pour que chacune des 24 heures soit inoubliable ? Changer, briser la routine dans laquelle on s'enferme nous rapproche toujours d'une existence palpitante. Sinon, gare à l'ennui, à la démotivation et à la déprime et même à la mort prématurée. C'est prouvé scientifiquement, chaque nouvelle expérience apporte de la valeur à sa vie. La clé pour avoir une vie mémorable, c'est d'être à la poursuite d'une vie mémorable.
Pour rester dans l'esprit chaman de ce que disait Dominique, voici une petite brève rapide. Ce qu'en pensent les plantes concernant les changements climatiques. Les plantes pourraient un jour nous dire comment elles vivent les effets des changements climatiques, croit Andrea Vitaletti, professeur de génie informatique à l'Université de Rome. Partant du principe que les plantes sont de bons indicateurs des répercussions des changements climatiques, des pesticides ou de la pollution, ce chercheur italien a conçu des électrodes très fines pour capter les signaux électriques qu'elles émettent en réaction aux modifications de leur environnement. En plaçant ces électrodes dans des plantes de tomates et de tabac, il espère parvenir à interpréter ce que ces plantes expriment au sujet de leurs conditions de vie.
Bon retour sur Canal M, le kiosque magazine. Je vous parle ce matin de l'effet Pygmalion, une prophétie auto-réalisatrice, et c'est un article tiré du Huffington Post Québec du 30 avril 2015 sous la plume de Marie-Sylvie Dionne. Un psychologue américain nommé Robert Rosenthal a découvert l'effet d'une prophétie auto-réalisatrice nommée effet Pygmalion. Dans le cadre d'une étude visant à étudier le rôle des attentes et préjugés sur les résultats obtenus auprès de groupes cibles, l'effet Pygmalion, résultat des mécanismes de projection, est tout aussi pertinent dans les rapports de travail ou en milieu familial. Lors de sa première expérience, Rosenthal demande à 2 groupes d'expérimentateurs, des étudiants, de tester la performance de rats lors d'exercices au sein d'un labyrinthe. Au premier groupe d'étudiants, on confie un échantillon de rats en qualifiant ceux-ci de spécialement intelligents. On doit donc s'attendre à des résultats remarquables de leur part. On signale ensuite à 6 autres étudiants que le deuxième échantillon de rats n'a rien d'exceptionnel et que pour des causes génétiques, il est fort probable que ces rats auront du mal à trouver leur chemin dans le labyrinthe. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Les résultats confirment très largement les prédictions effectuées par Rosenthal. Certains rats du deuxième groupe ne quittent même pas la ligne de départ. Après analyse, il s'avère que les étudiants qui croyaient que leur rat était particulièrement intelligent leur ont manifesté de la sympathie, de la chaleur, de l'amitié. Inversement, les étudiants qui croyaient que leur rat était stupide ne les ont pas entourés avec autant d'affection. L'hypothèse de base de l'expérience de Rosenthal est que les préjugés d'une personne sur le comportement d'une autre deviennent des prophéties à réalisation automatique. Il suffit d'avoir émis ce préjugé pour qu'il se réalise. Il ne s'agit pas de magie, mais de la force que peuvent avoir les attentes sur le comportement. Rosenthal a par la suite testé son hypothèse dans une école publique primaire située aux États-Unis. Les élèves ont été répartis selon trois niveaux d'aptitude, rapide, moyen et lent. Avant le début de l'année scolaire, tous les élèves de l'école ont passé un test standard non-verbal d'intelligence. Test qui a été présenté aux enseignants comme un prédicteur de l'épanouissement intellectuel des élèves. Les noms des enfants désignés comme étant prometteurs et pour lesquels on prévoyait un développement intellectuel important au cours de l'année ont été communiqués aux enseignants. Mais en réalité, ces étudiants avaient été désignés par tirage au sort et il n'y avait aucun lien réel avec leurs résultats. Aucune autre information n'a été donnée à l'enseignant attiré à ce groupe. Les résultats, après la première année, les élèves du groupe expérimental se sont comportés comme les super-souris. Ils ont fait preuve d'un avantage significatif. Ils ont augmenté leurs résultats, non seulement au test d'intelligence, mais également au plan scolaire. Après la deuxième année, les plus jeunes du groupe expérimental ont perdu cet avantage quand ils n'étaient plus en contact direct avec l'enseignant qui les considérait comme susceptibles de s'épanouir. Les plus âgés, moins influençables, ont continué à développer l'avantage acquis. En conclusion, les enfants dont l'enseignant attend davantage, vu leur potentiel, font effectivement des progrès plus grands. Et en cela réside le pouvoir de nos projections. La prophétie autoréalisatrice fonctionne à deux sens. Quelqu'un peut vous confier ses préjugés négatifs à l'égard d'une personne et teinter ainsi votre regard envers celle-ci, alors que vous l'accueillez dans votre équipe. Cette chaîne d'influence peut colorer un groupe, une société, une nation, et faire en sorte qu'il devient difficile de distinguer la réalité de l'illusion. C'est aussi ainsi qu'une relation parent-enfant peut se construire, c'est-à-dire sur des affirmations, des projections, des illusions ou des peurs qui gouvernent votre univers personnel. Et pourtant, rien de tout ça n'appartient à votre enfant, puisqu'il s'agit d'un matériel conscient et inconscient auquel vous donnez raison. Par exemple, un jeune enfant privé régulièrement de l'attention de ses parents apprendra à décoder « Je n'ai aucun intérêt, ni valeur aux yeux de mon environnement, donc je ne vaux rien. » Pourtant, aucune communication verbale n'a permis de traduire ce sentiment. Que ce sentiment soit vrai ou non a peu d'importance en soi. Dans la réalité, le jeune enfant a adopté cette croyance et celle-ci est devenue la paire de lunettes à partir de laquelle il se regarde et regarde le monde. Il en va de même d'un gestionnaire qui priverait son équipe de toute forme de reconnaissance ou de rétroaction constructive. Nous sommes des êtres de lien. Le lien à autrui, quelle que soit sa nature, est chargé d'informations directement transmises et ce, que vous en soyez conscient ou pas. Ainsi, pour bonifier ces habiletés relationnelles, il importe de retenir que plus vous devenez conscient de vos pensées, c'est-à-dire de votre discours mental face à un événement ou face à une personne, plus vous pouvez choisir de donner raison ou pas à ce discours et le transformer. Plus vous devenez conscient de vos émotions et de leurs effets, plus vous devenez conscient des sentiments, besoins ou préoccupations d'autrui, dont celles de vos enfants par exemple. Plus vous devenez conscient de votre langage verbal et non-verbal et de l'effet de ce langage sur autrui, plus vous pouvez choisir d'avoir un impact favorable sur votre équipe de travail, votre environnement familial, votre relation ou votre couple. Ainsi, l'important réside dans une meilleure conscience de soi.
De nous faire bouger, le retour du printemps nous promet des rendez-vous gourmands, festifs, avec bientôt sur nos tables de beaux légumes et fruits frais de saison. Voici donc un article qui nous rappelle, entre autres choses, qu'il ne faudra pas surtout s'en priver et pourquoi. L'article est paru dans le magazine La Maison du 21e siècle, dans le numéro Printemps 2015. Il est écrit par André Fauteux pour sa rubrique Manger, Santé. Le cancer n'est pas le fruit du hasard. Non, la plupart des cancers ne sont pas dus à la malchance, entre guillemets, affirmait le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, le 13 janvier 2015. L'organisme réagissait alors à une récente étude de Science du 2 janvier 2015 qu'il qualifiait de biaisée. Elle concluait que des mutations aléatoires de cellules souches étaient les principaux contributeurs, on cite l'article, de la survenue de 22 types de cancers sur 31. Or, le hasard ne peut expliquer pourquoi l'incidence du cancer augmentait de 88% en France entre 1980 et 2005, ni pourquoi le nombre de cas augmentera de 75% dans le monde d'ici 2030. Là, on cite Lancet Oncologie du 1er juin 2012. Selon le CIRC, si le cancer touche aujourd'hui plus de 45% des hommes et 40% des femmes, ce n'est pas seulement à cause du vieillissement de la population, des meilleures techniques de diagnostic ou du tabagisme, entre mental qui diminue dans plusieurs pays. Non, la majorité des cancers les plus fréquents qui surviennent dans le monde sont fortement liés aux expositions environnementales et au mode de vie, affirme l'organisme, en ajoutant que près de la moitié de tous les cas de cancer peuvent être évités. Comme l'écrivait dans le journal de Montréal le 2 janvier dernier Richard Béliveau, l'auteur, bien entendu, comme on l'aura compris, des aliments contre le cancer qui est paru aux éditions Tricaré de 2005. Donc Richard Béliveau, rappelons-le, il est professeur de biochimie à l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaîne en prévention et traitement du cancer. Donc Richard Béliveau a écrit « Nous ne pouvons contrôler le hasard des mutations cancéreuses, mais nous pouvons empêcher leur évolution en maladie cliniquement exprimée. » Sur son site web richardbeliveau.org, celui qui est aussi professeur de médecine à l'Université de Montréal et chercheur en oncologie à l'Université McGill, explique que l'hérédité compte pour moins de 15% de tous les cancers. Selon les dernières observations du Fonds mondial de la recherche contre le cancer publiées en 2007, on estime que 30% de tous les cancers sont directement reliés à la nature du régime alimentaire des individus. Les personnes consommant le moins de fruits et légumes sont environ deux fois plus susceptibles de développer certains cancers. Alicaments protecteurs et guérisseurs. Alicaments, on parle des alicaments naturels et non pas industriels. Le guide alimentaire canadien recommande aux adultes de manger de 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Or, certains aliments sont des alicaments qui ont des effets protecteurs distincts en matière de prévention et traitement du cancer. Des bénéfices confirmés par de nombreuses études scientifiques concluantes. Parmi les aliments possédant une grande capacité d'absorption des radicaux libres, en général davantage quand on les mange crus. On citera le thé vert, l'ail, le soja, l'épice curcuma, le vin rouge, le chocolat, les algues, le brocoli et autres crucifères, en portant parenthèse le chou, les épinards et autres légumes verts, l'artichaut, les olives, les fruits rouges, le citron et autres agrumes, le kiwi, la noix du Brésil, etc. Selon la Société canadienne du cancer, voici les principaux aliments dont on devrait limiter la consommation, car ils favorisent l'apparition de cette maladie. Sucre, céréales raffinées, produits laitiers, sel, alcool, viande rouge et charcuterie, fritures et autres aliments cuits à haute température, comme sur le barbecue. L'organisme ajoute qu'il faut aussi éviter des aliments transformés autant que possible, maintenir un poids santé et faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. Rester assis tue plus que le tabac, titrait le quotidien Le Monde le 24 janvier 2014. Par ailleurs, une diète diversifiée, on entend par là une alimentation diversifiée, est essentielle pour bloquer les divers types de processus biologiques pouvant mener au cancer, car la combinaison de plusieurs aliments crée une synergie qui multiplie leurs effets protecteurs distincts, et cela toujours selon Richard Béliveau. Par exemple, le poivre augmente de plus de 2000 fois l'absorption de la curcumine, donc c'est ce pigment qui provient du curcuma, qui atténue le comportement agressif des cellules anticancéreuses. Enfin, d'autres experts en prévention du cancer, comme le docteur Samuel Epstein, qui a un site preventcancer.com, et le docteur Dominique Belpomme, artac.info, c'est son site, soulignent que l'augmentation de la pollution au travail et à la maison est la première cause des hausses faramineuses de l'incidence de certains cancers, cerveau, sein, testicules par exemple, Selon les professeurs de médecine, nos gouvernements doivent cesser de blâmer les victimes et plutôt s'attaquer à la pollution chimique et électromagnétique. Des poisons dont l'augmentation est tout sauf le fruit du hasard. En fait, l'auteur, pour en savoir davantage, nous indique des sites web qui seraient toujours utiles de consulter. MangerSantéBio.org ou PassportSanté.net en ce qui concerne quels sont les meilleurs antioxydants.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides.
On vient d'entendre le Stromae que moi j'adore, voilà, qui nous chantait cancer et pas cancer, cancer, voilà, comme l'a spécifié Jean-Sébastien. Stop aux idées reçues, qu'elles soient dues à des agents pathogènes saisonniers comme le pollen ou persistants comme les acariens ou les poils d'animaux, les allergies sont parfois difficiles à identifier. Le docteur Guy Tropper, otorhinolaryngologiste et fondateur de la clinique privée Avant-Garde Médicale, nous informe. C'est par Isabelle Bergeron et c'est dans le Véro Magazine de l'été 2015. Alors, je vais faire un petit quiz. On peut développer une allergie à tout âge, vrai ou faux?
Vrai.
Bravo! Une allergie peut apparaître parce qu'on entre en contact avec une allergène pour la première fois ou parce que notre système réagit soudainement à des réactogènes qui ne nous avaient pourtant jamais causé de problème avant. Le stress, la fumée de cigarettes, un environnement pollué, etc. comptent parmi les facteurs qui peuvent contribuer au développement d'une allergie. On est plus à risque de souffrir d'une rhinite allergique si on a déjà un autre type d'allergie.
Non, ça, je ne sais pas, mais j'ai des rhinites.
C'est vrai. Ah. Le développement d'allergies respiratoires est parfois procédé d'autres formes d'allergies. Par exemple, un poupon souffrant d'eczéma sera davantage sujet à souffrir d'allergies alimentaires, mais aussi d'asthme et d'allergies au pollen et aux acariens. Seuls les tests cutanés permettent de déterminer si on souffre d'une allergie. Eh bien, c'est faux.
Oh.
On peut aussi recourir à une prise de sang. Grâce à une analyse du sérum sanguin sérologie, on pourra détecter la présence d'immunoglobuline E, un anticorps associé à la rhinite allergique. Le nombre de personnes allergiques grimpe constamment.
Vrai.
C'est vrai, voilà. La pollution automobile, le stress, une alimentation trop sucrée et nos milieux de vie aseptisés sont autant de causes possibles de cette augmentation. L'Organisation mondiale de la santé prédit que d'ici 2050, la moitié de la population mondiale souffrira d'une allergie. Aujourd'hui, le chiffre est de 40%. Faut aller voir les chamans, là, hein, je crois qu'il est temps. Une allergie peut disparaître spontanément. Eh bien, c'est vrai.
Oh, bonne surprise.
Voilà. C'est comme si notre système immunitaire devenait soudainement tolérant à l'allergène. Mais attention, si notre allergie semble avoir disparu, on consulte un spécialiste avant de songer à changer nos habitudes, surtout si nos symptômes étaient sévères. Le risque de développer une allergie dépend de nos antécédents familiaux. Et ouais. C'est vrai et faux, mm-hmm. En fait. Si l'hérédité est un facteur parmi d'autres. Si un de nos parents a une allergie, nos risques d'en souffrir sont de 25 à 40%. Nos deux parents sont allergiques. Le chiffre grimpe alors de 75%. Et si notre père, ni notre père ni notre mère n'a d'allergie, on peut quand même en développer une. La probabilité est alors de 1 sur 6. L'alcool double les risques de développer une rhinite persistante. Peut-être, on n'est pas sûr. C'est ce qu'avançait une étude publiée en 2008 dans la revue Clinical and Experimental Allergy, menée auprès de 5000 femmes âgées de 20 à 29 ans qui consommaient plus de 2 verres d'alcool par jour. L'étude précisait que des recherches plus poussées devaient être menées. Néanmoins, d'autres études établissent effectivement un lien entre une consommation importante d'alcool et l'aggravation des symptômes allergiques. Des symptômes allergiques non traités peuvent engendrer des troubles psychologiques, anxiété, troubles du sommeil, dépression. Ça, c'est vrai. Plusieurs recherches ont montré que les allergies dont les symptômes étaient importants entraînent souvent des problèmes d'ordre psychologique. Un rapport déposé en 2011 et réalisé pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a également confirmé ce fait. Si on est allergique à notre chat, on doit s'en débarrasser.
Vrai.
Oui.
Faux.
Oh, ma sœur a fait ça.
Ben voilà, voilà, trop tard. Faut vite qu'elle aille le rechercher. Faux, mais si on se sépare de notre animal, nos symptômes disparaîtront sans doute au bout de quelques mois. Par contre, lorsque l'on entrera de nouveau en contact avec un chat, nos réactions risquent d'être beaucoup plus intenses. Nos symptômes sont sévères et nous empêchent de bien fonctionner. On peut toujours décider de garder Minou, mais on devra consulter un spécialiste. Un suivi attentif sera alors essentiel. Les vaccins sont les seuls traitements efficaces contre une allergie ? C'est faux. L'immunothérapie sublinguale, qui est efficace dans 70% à 85% des cas, est de plus en plus utilisée. Elle consiste à prendre tous les jours des gouttes ou un comprimé contenant la substance allergène. Résultat, le système immunitaire s'adapte graduellement à cette substance jusqu'à ce qu'il n'y réagisse plus. Et concernant l'immunité, j'ai quand même trouvé une petite brève qui m'a fait vraiment plaisir et que je voudrais vous lire. C'est « Les câlins renforcent l'immunité ». La chaleur humaine étant un antistress reconnu et évident, des chercheurs américains sont allés plus loin en démontrant qu'à partir d'un certain nombre de câlins par jour, accolades, embrassades, la résistance au rhume augmente de 30%, un chiffre obtenu après avoir contaminé des volontaires avec le virus du rhume et constaté que ceux qui avaient reçu le plus de gestes affectueux de la part de leur entourage présentaient de meilleures défenses immunitaires. Free hugs for tous.
Oh.
Voilà. Thank you.
J'ai une petite brève qui sent le printemps aujourd'hui que je souhaite vous offrir comme un cadeau de départ parce que c'est ma dernière émission parmi vous aujourd'hui, ce matin. Et j'ai merci beaucoup pour votre écoute qui m'a beaucoup apporté. Alors, un seau de fleurs dans son verre, c'est-il possible ? Le printemps donne envie de mettre des fleurs partout et pourquoi pas dans les cubes de glace ? Violettes, pensées, soucis, toutes les petites fleurs comestibles peuvent enjoliver les limonades et les cocktails pourvu qu'elles aient été cultivées sans pesticides. Alors comment fait-on ? Remplir à demi un bac à glaçons et le mettre au congélo le temps que l'eau commence à prendre, environ une heure. Y déposer les fleurs, puis remettre de l'eau avant de congeler de nouveau. Si l'on veut obtenir des cubes parfaitement limpides, utilisez de l'eau distillée. Pour empêcher les cubes de fondre trop vite, les placer dans un seau préalablement refroidi.
Les bienfaits du chant. Savez-vous ce que fait la neuropsychologue Sonia Lupienne pour se déstresser quand elle est coincée dans un embouteillage ? Elle chante à tue-tête. Oh. Chanter favorise la respiration abdominale qui fait diminuer la production d'hormones du stress, explique la directrice du Centre d'études sur le stress humain. On s'en souviendra.
Enfin, des sambons non toxiques. Et là, je fais un écho à la question des allergies. L'entreprise québécoise Au Nature, et ça c'est un article qui est paru dans la Maison du 21e siècle, printemps 2015, l'entreprise québécoise Au Nature se dit la première à offrir des parfums de maison sains permettant d'éviter les désodorisants pétrochimiques nocifs ou l'entretien d'un diffuseur d'huiles essentielles. Ces trois produits, vaporisateurs, eau de linge, bâton diffuseur, contiennent principalement des ingrédients naturels comme des huiles essentielles, de l'eau pure et de l'alcool de grain, complétés avec un peu de parfum de synthèse, mais exempt de toxines, afin que l'odeur persiste pendant une heure. Selon l'Agence environnementale de protection américaine, les sambons synthétiques émettent typiquement des polluants comme du formaldéhyde, irritant et cancérogène, et du paradichlorobenzène. Bon, c'est un bien grand mot, mais il s'agit de l'insecticide utilisé dans les boulamites. Une famille nord-américaine sur trois utiliserait ce genre de produit déconseillé par l'association pulmonaire. Et là, je vous citais également, je voulais vous parler aussi de Au Nature, qui est également sur, qui a un site internet, aunature.ca. Vous pouvez consulter toutes les informations qui sont données par André Fauteux.
Votre émission est déjà terminée. Un grand merci à vous pour avoir passé cette petite heure avec nous. Merci à Jean-Sébastien, La Liberté, pour ses choix musicaux, sa mise en onde et son aide précieuse tout au long des émissions. Et merci aussi à Mathieu Tessier qui participait aujourd'hui. Bonne chance à la nouvelle équipe d'animatrices que vous retrouverez la semaine prochaine. Il y aura Daniel Rioux, Anne-Marie Mélina Simard, Christine Boucard. Et je tiens par ailleurs à remercier Louise Vien, directrice de Canalem, et Clotilde Sey pour leur gentillesse et leur confiance. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220, ou sur notre site de Canalem.
Merci à tous.
Org.
Au revoir.
Au revoir.
À très bientôt.